Avec une cuillère d'argent dans la bouche, cela peut tout autant étouffer l'identité profonde qu'être né marron et pauvre.
De vive voix.
Chantal Laureau.
Bonjour Iman Bassala.
Bonjour.
Bienvenue dans De vive voix. Vous êtes journaliste, professeur de lettres, écrivaine et vous publiez un nouveau roman, À gauche du lit, aux éditions Anne Carrière. D'abord, est-ce que c'est un roman ou plutôt ce qu'on appelle aujourd'hui une autofiction, c'est-à-dire un récit romancé de votre vie, de vos expériences, voire de vos engagements sur fond d'actualité brûlante?
C'est une autofiction. Une autofiction, ça a quelque chose de terrible. C'est que la boulangère se demande pourquoi elle ne s'y trouve pas. Et votre maman vous déteste de s'y trouver autant. Quant aux amours, n'en parlons pas.
Alors, écrire une autofiction, pourquoi ce choix? Est-ce que c'était un moyen aussi de mettre à distance des choses douloureuses?
Ça s'est imposé à moi. J'ai écrit d'autres livres qui n'étaient pas de l'autofiction. J'étais un petit peu gênée par l'autofiction en me disant que c'est une exhibition de soi. Mais aujourd'hui, l'exposition de soi fait partie et de la vie courante et de la littérature. Et que c'était aussi la manière pour moi, peut-être la plus rapide, de répondre à une urgence d'écrire. Il y a des passages qui sont totalement fictifs. Enfin, c'est toujours un mélange très intéressant, mais ça permet de se dire soi et de se représenter soi pour paraphraser une séquence que l'on apprend aux élèves de troisième aujourd'hui, se raconter, se représenter.
Parce que l'héroïne du livre, Farah, vous ressemble beaucoup.
Oui, Farah, la joie, et Iman, la foi. Nous sommes effectivement deux sœurs jumelles ou presque.
Donc elle est prof de lettres comme vous.
Oui, dans un lycée défavorisé de la Porte de Saint-Ouen. Aujourd'hui, moi, j'enseigne à des enfants défavorisés par la nature, à des enfants malades.
Elle est d'origine tunisienne, comme
tout
vous.
Tout à fait.
Et elle élève seule son enfant, comme ça a été le cas aussi pour vous.
Exactement.
Alors, elle vit entre plusieurs mondes, la banlieue et les beaux quartiers, les petits boui-boui, comme elle les appelle, et les grands restaurants, son ancrage parisien très culturel. Et puis, il y a les saveurs, les couleurs, les traditions de sa Tunisie natale. Elle navigue entre les terres, c'est ce que vous écrivez, entre bâbord et tribord.
Elle est toujours en navigation et peut-être en flottement, ce qui lui permet de créer, de rencontrer et de rester riche dans sa tête.
Alors, un beau jour, elle tombe amoureuse d'un homme qui gravite dans un monde aux antipodes du sien, quoique.
Oui, effectivement, Albert est un avocat, un ténor du barreau parisien, du double de son âge et effectivement bourgeois. Mais il se retrouve dans ce qui... Albert a des relations avec l'Orient, avec la Tunisie dont elle est issue. Il se retrouve dans bien des façons. Et c'est ça qui est beau, c'est que l'amour permet de soulever aussi... le couvercle de la tête de l'autre, c'est un dernier moment où l'on cherche à savoir ce qui se passe dans la tête de l'autre.
Et pourquoi écrivez-vous, c'est ce que j'ai lu hein, tout à l'heure en préambule de l'émission, être né blanc avec une cuillère d'argent dans la bouche, ce qui est le cas d'Albert, l'avocat brillant issu d'un milieu bourgeois, cela peut tout autant étouffer l'identité profonde qu'être né marron et pauvre.
Chacun a des problèmes de légitimité. Albert, quand il défend les pauvres ou les musulmans, est traité de justicier. On se dit que ça peut-être même ça l'amuse. Farah, elle, est toujours ramenée à son identité d'arabe issue de l'immigration de travail. Donc, il y a une espèce comme ça. Et l'assignation n'est pas que du côté de l'arabe de France. Elle est aussi... du côté du français de France.
Et vous, dans la vraie vie, vous avez souvent été face à ces assignations?
Oui, tout à fait. Alors, de façon peut-être plus trouble et moins directe que d'autres, parce que j'ai eu la chance d'arriver effectivement dans des milieux culturels favorisés, d'avoir eu aussi la chance d'étudier dans un lycée très bourgeois, très comme ça. Donc, j'étais un peu caméléon dans ces univers-là. Mais tout de même, il y a eu des moments où on me rappelait d'où je venais et surtout qu'il fallait que j'y reste de façon peut-être plus perverse. traverse que celui qui traverse sa cité 5 fois par jour et qui se fait arrêter par les flics, etc. Enfin, en tout cas, de façon plus moins directe. Voilà.
Et ce livre, est-ce que c'est aussi pour démonter les clichés à l'ère du soupçon ou de la suspicion généralisée, piège dans lequel Farah tombe souvent elle-même?
Farah tombe souvent elle-même. Effectivement, il y a un papier de BHL, Bernard-Henri Lévy, qui a beaucoup tourné sur ce que fait le nom de Zemmour aux Juifs, mais ce que font le nom des terroristes aux Arabes, et il est terrible parce qu'on porte les mêmes noms, nous avons les mêmes têtes que les terroristes. Et qu'est-ce qui fait que l'autre n'est pas un terroriste? Il y a un brouillage cérébral qui fait que Farah, parfois, même elle qui est arabe, elle voit, elle voit un terroriste potentiel derrière le moindre de ses voisins. Et bien sûr, elle le réfléchit, mais quelqu'un qui peut moins réfléchir ça, qui reçoit des informations chaque jour et qui voit des têtes d'arabes et qui voit cette réduction arabe égale terroriste partout, que peut-il en faire? C'est pas évident.
Vous racontez par exemple dans le RER?
Oui, dans le RER, quand elle entend quelqu'un mettre la donne par provocation ou parce qu'il en a envie, tout simplement, par spiritualité sur son téléphone, elle change de wagon. Quand elle rentre dans un taxi, que c'est un barbu, comme il y en a beaucoup, parce que les Arabes prennent aussi souvent ces métiers très peu payés par manque de choix, et elle se retrouve avec un homme, à un moment, dans un taxi qui la conduit, qui est irakien, et elle a peur, et elle se rend compte, en fait, que cet homme, lui, a peur de sa propre fille, qui est devenue une fille intégriste, et que lui a fui l'Irak pour ne pas vivre ça, et elle est tout à fait honteuse, elle est tout à fait honteuse de sa réaction épidermique.
Si c'était l'heure de se le dire dans les yeux, si c'était l'heure, le jour et le lieu, si c'était l'heure de mourir un petit peu, si c'était l'heure de croire en son Dieu, si c'était bien, si c'était mal. La fin du bal.
Si c'était l'heure des amants malheureux, si c'était l'heure du grand coup de feu, si c'était l'heure de dévoiler son jeu, si c'était l'heure de broyer du bleu,
si c'était beau.
Si c'était l'heure de perdre la mémoire, si c'était l'heure de faire un cauchemar,
si c'était l'heure de se réveiller nulle part, de parler tout seul de sans vouloir, si c'était l'heure.
La fin du bal, Élodie Frégé et Cyril Mokayesh dans De Vive Voix sur RFI. C'est un extrait de Dyade, le nouvel album de Cyril Mokayesh. Nous sommes toujours en compagnie d'Iman Bassala, dont le nouveau livre « À gauche du lit » vient de paraître aux éditions Anne Carrière. Iman, quel a été le point de départ du livre? Est-ce qu'il y a eu un élément déclencheur?
Oui, c'était un soir d'octobre, celui de l'attentat à la vie de Samuel Paty, qui est alors une trop forte décharge sur mes épaules, parce que cette mort pèse sur toutes les parties de moi. Je suis prof, je suis laïque, je suis écrivain, je suis une arabe de France, je suis une femme libre, et je suis issue aussi du pays d'Afrique qui a donné le plus de liberté aux femmes et de soldats à Daesh, la Tunisie. Et à ce moment-là, quand Samuel tombe, dans ma vie privée, je me sépare aussi d'un homme politique qui est très engagé dans les combats arabes, mais aussi à la défense des terroristes. Et je me dis à ce moment-là, au nom de la défense de l'état de droit, mais je me dis à ce moment-là, moi je suis dans un état d'urgence et il faut mouvoir cet effroi qui me tombe dessus en octobre. Et j'ai commencé à écrire au soir de cet assassinat, où parallèlement mon fils vient me voir le soir même en me disant « Maman, j'aimerais bien que tu arrêtes d'être marron, entre marron et honte. » Et je me dis « C'est pas possible. » il faut montrer qui je suis, qui on est. Il faut parler. Je parle dans ce livre, il y a cette grande histoire d'amour, mais il y a aussi l'histoire de trois femmes, ma mère, ma grand-mère et moi, d'une lignée de femmes, de personnes qui ont de toute liberté que j'ai eu moi, d'aucune qu'ont eu elles, de comment elles sont venues, de mon père. Je parle de tout ça. Je dis voilà, c'est un livre qui est une grande histoire d'amour, mais c'est aussi un livre qui est écrit pour que mon enfant soit fier, quelque part.
C'était une transmission, en fait.
Il y a une transmission.
D'une partie de l'histoire familiale.
Oui, voilà, c'est ça. C'est si je meurs demain, tu auras quelques bribes ici.
Ah, il faut rappeler que Samuel Paty, professeur d'histoire géo, a été décapité par un terroriste islamiste à côté de son collège de Conflans-Sainte-Honorine il y a bientôt un an. C'était le 16 octobre 2020. Décapité pour avoir montré une caricature de Mahomet dans un cours sur la liberté d'expression. On va écouter un extrait du discours d'Emmanuel Macron lors de l'hommage national rendu à Samuel Paty dans la cour d'honneur de la Sorbonne le 21 octobre 2020.
Samuel Paty fut tué précisément parce qu'il incarnait la République qui renaît chaque jour dans les salles de classe, la liberté qui se transmet et se perpétue à l'école. Samuel Paty fut tué parce que les islamistes veulent notre futur et qu'ils savent qu'avec des héros tranquilles tels que lui, ils ne l'auront jamais. Eux séparent les fidèles et les mécréants. Samuel Paty ne connaissait que des citoyens. Eux se repaissent de l'ignorance, lui croyait dans le savoir. Eux cultivent la haine de l'autre. Lui voulait sans cesse en voir le visage, découvrir les richesses de l'altérité.
Iman Bassala, comment on fait aujourd'hui quand on enseigne pour apprendre aux élèves à respecter justement l'altérité, à découvrir les richesses de l'altérité? Est-ce que c'est plus difficile qu'avant?
C'est pas plus difficile qu'avant. Ce qui m'étonne, c'est surtout que ça n'a pas progressé. On se retrouve, j'ai rencontré une professeure qui arrivait pour enseigner la philosophie à ses élèves, qui se très mignons les élèves. Ils lui ont dit, madame, on peut pas, c'est haram la philosophie, on peut pas entendre ça. C'est-à-dire que les idées dans la cour de récré n'ont pas progressé. Il y a un gros échec sur la trentaine d'années que je peux voir. Il y a un gros échec cette question aussi du racisme n'a pas progressé. Le dialogue n'a pas progressé, mais le racisme ne s'est pas atténué. Parallèlement, mon fils me rapporte des peurs d'enfants de l'école où il dit est-ce que la dame blonde, et si elle est élue, est-ce qu'elle va faire partir tous les marrons, est-ce qu'elle va te faire partir toi, parce que bon, mon fils est métissé, il est un peu moins marron que moi.
Et il connaît déjà, à 8 ans, il connaît déjà Marine Le Pen.
C'est ça qui m'effraie, c'est-à-dire que les mêmes épouvantails sont là. Et Emmanuel Macron, dont je salue le dialogue ici, quoi qu'on en pense, quand on a vu ces images en se rendant sur les lieux de l'attentat, son visage aussi pâle était aussi démuni que chacun de nous et que chacun des enfants, parce qu'aujourd'hui, chacun sait, les enfants savent pour Samuel Paty très tôt. On ne va pas revenir sur la question de l'hommage à l'école, mais qu'est-ce qu'on peut faire pour ramener le dialogue, en tout cas, faire qu'une entente soit possible, c'est continuer de montrer la culture aussi dont sont issus les enfants de l'immigration, qui souvent ne savent que ce qui existe à la télé. Enfin, cette espèce de voyage au bled que nous avions, par exemple, nous, qui nous-mêmes nous ancrait un petit peu, même si ça, parfois ça nous gonflait d'y aller chaque année, ou on aurait préféré aller Trouville-sur-Mer, je n'en sais rien, mais est nécessaire pour ancrer. C'est des enfants qui ne savent pas qu'il y a une culture riche dans leur pays. Ils sont arrêtés à ce qui se passe, soit le terrorisme, soit soit l'assignation, soit continuer le communautarisme, pardon. Ils ne savent pas le féminisme égyptien, ils savent pas.
Vous racontez, ou plutôt Farah se met à raconter, par exemple, aux élèves que en Tunisie, la Tunisie de Bourguiba,
oui,
notamment,
oui,
s'est battue contre le voile dans l'espace,
oui,
public.
Oui, et ça, c'est une histoire qu'on ne leur enseigne pas.
Pourquoi?
Parce que sans doute, mais il y a eu une part de paresse, et puis ça, Je ne suis pas complotiste, mais il y en a peut-être que ça n'arrange pas d'expliquer les choses aussi. On s'arrête sur le voile à l'école, mais c'est pas ça la culture. C'est pas le voile, ni mis, ni ôté. C'est apporter des choses sur la littérature. Sur. Alors, il y a des efforts qui sont faits, bien sûr. À l'école, il y a des... ne serait-ce que ce truc idiot, mais facile de mettre des noms arabes dans les exercices de mathématiques, etc. pour dire, voilà, vous existez, Samy et Safia. Mais la poésie, je ne sais pas. Enfin, il y a 10 000 façons de faire, je pense. Les efforts existent, mais ils sont trop lents.
Imane Bassala, je voudrais vous demander de lire un extrait de votre livre.
Tu n'es pas obligée de te sentir lâche, juste à cause de tes origines, me rassure souvent Albert. Ce souvenir de l'enseignement de Salman Rushdie. On n'est pas obligé d'écrire au nom des siens. C'est plutôt impuissante que lâche, le bon mot. J'en veux à Albert de ne pas me corriger là-dessus. Peut-être que je ne peux rien contre l'islamisme radical, mais peut-être que je peux quelque chose contre la montée du racisme qui en découle, pour que tous les Arabes ne subissent pas, sans distinction de qui ils sont vraiment, une double peine à chaque attentat. Peut-être que par une pirouette inattendue, en participant à ce combat, je jette tout de même un caillou contre la fenêtre de l'islamisme radical, et qu'à force de cailloux, elle est encore loin, la super-héroïne qui viendrait lapider l'hydre djihadiste embusqué derrière la fenêtre. Ce qui me gêne dans tout ça, c'est la montée de cette sensation qu'il faut montrer patte blanche. Patte marron is beautiful, et j'ai envie de hurler à ceux qui, en salle des profs ou sur les réseaux, me cherchent sur les sujets terreaux. Que pensent-elles vraiment? Et encore, ils ne savent pas que je sors avec Albert. Une amie tunisienne m'a raconté que dans son cours de sculpture, deux élèves se mettent à parler de décapitation dès qu'elles s'approchent d'eux. L'un a fait exprès de faire décoller la tête de la femme qu'il était en train de modeler, d'un coup de burin, en la regardant étrangement. Il a ajouté à son intention « Ça doit faire mal, en vrai ».
Cour de justice contre cour de récré. Je sais, dit Farah, que nous ne jouons pas dans la même, Albert et moi, mais je sais aussi que ce que je fais dans la mienne se répercute dans la sienne. Et vous racontez, Imane Bassala, une anecdote sur l'opposante et féministe égyptienne Nawal El-Sadawi.
Oui, Nawal El-Sadawi, qui est morte, s'est vue dire, entendu son joli lui dire, ce que son joli lui a dit, excusez-moi, c'est beaucoup d'émotion. C'est pire que d'avoir un fusil quand il trouve un crayon auprès d'elle.
Dans sa cellule.
Dans sa cellule.
Donc, comme quoi l'école a quand même un rôle fondamental, à jouer.
Ce que nous ratons à l'école se retrouve après en prison.
Voilà, dans la. Et ça finit parfois dans la cour de justice. Donc,
Effectivement, et je rapporte aussi, il y a une grande affaire, une des grandes affaires du livre, c'est celle de Youssef.
Un de vos élèves, un des élèves de Farah.
Oui, un des élèves de Farah. Youssef, un parcours d'excellence, comme on dit, voilà, etc., qui s'en sort comme il peut, qui vit assise dans une chambre et avec ses parents et qui travaille très bien, et mais qui est lassé d'être stigmatisé. Et lors d'une visite de journaliste dans ce lycée où l'on parle beaucoup de communautarisme, se tire une balle dans le pied en faisant en jouant de sa chaîne comme s'il était en train de mimer une décapitation. Et c'est un acte de suicide que je soupçonne beaucoup aujourd'hui d'élèves de faire.
Et il va se faire piéger par la presse.
Il va se faire piéger par la presse. Cette image va tourner et Albert va pouvoir intervenir en super justicier.
Voilà, pour défendre Youssef. Farah raconte qu'au lycée Nelson Mandela où elle enseigne, elle est surprise d'entendre beaucoup d'élèves, surtout des filles, dire que c'est la faute de l'Occident, qu'il faut arrêter de rabaisser les croyances des autres pour que les terroristes nous laissent tranquilles, disent-elles. Et la directrice leur répond, allez voir comment vivent les filles en Afghanistan, si c'est ça que vous voulez, on en reparle.
Oui, c'est un dialogue pour le coup que j'ai vraiment entendu, effectivement, y compris dans des lycées qui ne sont pas beaucoup marron ou noir, ni musulman. C'est peut-être que c'est de notre faute, ici, l'Occident. Pour le coup, je me mets du côté de l'Occident, parce que je suis occidentale aujourd'hui. C'est peut-être aussi de notre faute. C'est ce qui revient beaucoup, quand même.
Alors, Farah, votre héroïne, ne comprend pas pourquoi Albert tente de faire rapatrier en France les djihadistes français prisonniers en Irak. Il réplique qu'il est hors de question de laisser s'ériger un Guantanamo du Proche-Orient. Un Français doit être jugé en tant que Français et il lui demande de l'aider à faire régner la justice. Mais le problème, c'est qu'elle se demande, elle, de plus en plus, ce qui est juste.
Effectivement, parce que de manière comme ça sanguine, on a juste envie de tuer, de lacérer, de torturer celui qui a tué, lacérer surtout les enfants. Enfin, quand on pense et pourtant, c'est là où le droit intervient que l'humain reste humain, c'est-à-dire que Farah elle-même a connu un oncle islamiste, comme il arrive beaucoup dans les familles maghrébines, hein. Il y a le super tonton et il y a le mauvais tonton, et elle aimerait peut-être qu'il n'y ait plus de justice pour ces gens-là, mais à partir du moment où il n'y aurait plus de justice pour ces gens-là, petit à petit, il n'y aurait plus de justice pour personne, en fait. Et c'est là où elle doit faire un effort contre les spectres qui la hantent pour soutenir Albert.
Et le fossé va quand même se creuser tout doucement entre Albert et Farah jusqu'au jour où l'avocat va briser le pacte de Sidi Bou qu'ils avaient conclu.
Oui.
Il va défendre Sadiki Marwan, un islamiste tunisien que Farah aborde. Pourquoi est-ce que Farah ne supporte pas l'idée que Sadiki Marwan soit défendu par Albert?
Parce que Sadiki Marwan lui rappelle justement cet oncle méchant avec lequel elle a connu le pire jusque dans sa chair, jusque dans le viol peut-être. Ces fameux hommes très séducteurs, très respectés, qui ont un pouvoir financier, parfois politique, dit ok, celui-là non. Et Albert, dépassé lui-même par son désir de justice, d'appliquer, de faire appliquer la justice, de faire que chacun soit jugé selon des textes de loi qui sont là, et pas des textes de loi tourmentés par le désir de vengeance ou par la peur, fait un manquement à leur pacte, effectivement ce pacte noué à Sidi Bou Saïd, quand elle lui parle enfin de cet oncle qui la terrorise.
En deux mots, Iman Bassala, est-ce que comme Farah, vous avez appris vous aussi à naviguer entre bâbord et tribord?
J'essaye, parfois il me faut une bouée de sauvetage quand même.
Iman Bassala, je vous propose maintenant de retrouver, comme chaque mercredi, la puce à l'oreille de Lucie Bouteloup.
La puce à l'oreille.
Bonjour Lucie.
Bonjour Chantal.
Votre puce aujourd'hui arrive à pas de velours.
Et oui, et de la puce au chat, il n'y a qu'un pas. La preuve, aujourd'hui, la puce à l'oreille arrive en catimini. En catimini donc, une expression qu'on connaît tous plus ou moins, mais dont l'origine, j'en suis certaine, vous surprendra. Pour en parler, je reçois Jean Pruvot, mais avant, comme d'habitude, la parole aux enfants avec des propositions toujours aussi inattendues que réjouissantes.
Moi, catimini, ça me fait penser à un kayak. Et kayak, pour avancer, on met la pagaie vers la gauche, vers la droite. Donc ça peut être parler de deux choses qui sont opposées, comme passer du coca là.
Quand on fait des choses en catimini, c'est faire des choses de fille.
Ça me fait penser à Hello Kitty.
Et donc, s'habiller en rose.
Déjà, Cathy, peut-être que c'est une fille gentille, les petites filles modèles. Et mini, mini. Et faire quelque chose en catimini, c'est bien s'habiller, être gentille, ne pas faire de bêtises, etc.
Catimini, ça fait un peu... penser à Kata, donc comme s'il y avait un problème, donc on essaye de l'éviter. Enfin, je sais pas, j'ai l'impression qu'il faut faire un peu doucement, de partir sur la pointe des pieds, comme si on voulait éviter quelque chose.
Pour moi, catimini, c'est parler comme dans les voix des dessins animés.
Oui, c'est moi.
La puce à l'oreille.
Alors, Jean, agir en catimini, on sait tout ce que ça veut dire agir en cachette.
C'est ça.
Mais moi, j'imaginais que ça venait de l'italien. Pourtant,
Pas du tout.
Eh ben non.
Deux possibilités, quelles sont-elles?
Alors, c'est vrai que ça ne vient pas de l'italien. C'est probablement du Picard, pour ma grand-mère, qui est picarde, un chat, c'est un cas. D'où la chanson « Mon petit quinquin ». Mon petit chien-chien. Alors, c'est
donc, la... quatre pour chat.
Voilà.
Et Mini, alors?
Alors, Mini pour Minou, donc la réduplication du mot avec une autre forme. On a un exemple de ça.
Mini c'est... pour Minou, donc c'est la même racine.
Oui, c'est la même chose.
Donc ça veut dire chat, chat.
Oui, c'est ça. Alors, c'est une hypothèse, c'est celle qui l'emporte actuellement. Et il y en a d'autres aussi.
Alors, attendez, parce que faire quelque chose en chat, chat, c'est un peu obscur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il faut quand même expliquer peut-être que le chat avait mauvaise réputation.
Mauvaise réputation, et même encore nos chats adorés chez nous. Non, mais quand on les voit s'approcher doucement à pas de velours dans le jardin, on a bien compris qu'il y avait un oiseau pas loin.
Au Moyen-Âge, on lui prêtait quand même...
Une chose diabolique, ouais. Oui, et qui était hypocrite, même, c'était ça l'idée. Hein.
De sournois, quoi, voilà. Un animal sournois.
Oui, c'est ça. Ouais. Et il y a une autre hypothèse, bon, je l'ai un peu repoussée, elle est délicate. On a cru à un moment donné que ça venait du grec katamenia, qui signifie les monstrues, et qu'il y avait un lien avec l'idée que, évidemment, c'est un moment où les femmes le cachaient.
Les menstruations des femmes, leurs règles,
oui,
quoi, et que
voilà,
donc il y avait cette idée un peu honteuse et donc cachée.
Cachée. Mais cette hypothèse, elle est quasiment oubliée aujourd'hui. On est presque sûr que c'est la première qui l'emporte, et l'idée du chat.
Bon, en tout cas, dans une hypothèse comme dans l'autre, on a bien l'idée de la cachette et de la dissimulation.
Ah oui, tout à fait, hein, fait de manière discrète. Alors, les synonymes ne manqueraient pas, hein. En douce.
En douce, qui a donné en loose dé.
Ben oui, bien sûr. Tout ce qui peut montrer qu'on ne le fait pas visiblement, ostensiblement, est fait en catimini. Ça a un côté charmant aussi. Hein. Ça se fait doucement, c'est le velours. On ne voit pas une brute faire quelque chose en catimini.
Oui, et puis bizarrement, il n'y a pas tellement cette idée péjorative.
Non, on le dira rarement d'un homme politique qui fait quelque chose en catimini. On le dira plus facilement d'un enfant... d'une dame ou d'un monsieur qui fait quelque chose délicatement.
Ce qui n'est pas le cas quand on dit que quelqu'un agit en douce ou en loose dé.
Oui,
là, d'un seul coup, ça peut paraître plus pervers.
Alors parfois, quand même, De Gaulle, hein, dans ses mémoires de guerre, on est en 1956, dit « Je n'accepte pas d'entrevue en catimini à Marrakech, à Biskra ou ailleurs. J'entends aller à Alger en plein jour et en pleine dignité. » Vous voyez, c'est à peu près le seul, on le cite tout le temps, De Gaulle, pour ce mot, mais c'est le seul homme politique qui l'utilise. Il aimait les chats.
Merci Jean d'être venu, non pas en loose day, mais de manière tout à fait officielle, nous expliquer cette expression dans La Puce à l'Oreille. Je rappelle aux auditeurs que vous avez récemment fait paraître Les mots de l'école et que c'est paru chez Honoré Champion. À très bientôt Jean.
À bientôt Lucie.
Merci Lucie, merci Jean Pruvot. Je vous dis à mercredi prochain. Imane Bassala, en catimini, qu'est-ce que cela vous inspire?
Ça me rappelle en tunisien ce petit mot « beltorbia » en cachette. Parce que c'est un mot très féminin que j'ai beaucoup entendu ma mère et ses copines dire. Elles fument en cachette, elles font des petites choses en cachette, souvent contre le mari, mais c'est amusant et coquin.
Merci beaucoup Imane Bassala d'avoir été notre invitée. Je
Merci
renvoie nos
vous.
Auditeurs à votre livre « À gauche du lit » publié chez Anne Carrière. Et il faut le lire jusqu'à la dernière page pour comprendre le titre. Merci également à Cécile Lavolo à la programmation et à Guillaume Ploquin à la réalisation de Vive Voix. À demain et portez-vous bien.
Vous êtes jeune.